On a inscrit Scholote dans la perspective justement de la mutation numérique comme mutation anthropologique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par anthropologique? C'est évidemment l'hypothèse selon laquelle d'abord il s'agit d'une mutation. D'autres utilisent transformation, d'autres parlent, mon ami Jean-Max Noyer parle de plissement du monde, de plissement numérique, etc. Donc c'est vrai qu'on est face à quelque chose qui demande à être qualifié progressivement. Et on voit, nous connaissons tous évidemment l'importance du poids des mots pour penser cela. Alors, le fait que ça soit anthropologique signifie que ça peut avoir éventuellement quelque chose à voir avec l'évolution de l'humanité. En tout cas, que ça peut l'affecter intégralement, que ça peut interroger ce qu'est, dans le fond, l'humanité, et plus largement, peut-être, le processus d'hominisation, si on veut aller un peu plus loin, c'est-à-dire avec des questions extrêmement concrètes, évidemment, qui concernent notre rapport aux objets, nos rapports aux machines, nos rapports aux techniques, nos rapports au langage, nos rapports à l'ensemble de ces questions. Alors, ça suppose évidemment de prendre en compte, dans un premier temps, de dire que c'est global, ça signifie que ça concerne à tous les niveaux d'échelle. Et que donc ça concerne à la fois les relations interindividuelles, je dirais le micro-niveau, que ça concerne les formes d'organisation, comment dirais-je, qui sont des modes de coordination et de coopération qui ont été, qui existent, qui ont été soit inventés en fonction de buts et de projets, hein, que ce soit des organisations artefacts, comme les appelle Jean-Louis Lemoigne et comme les appelait Castoriadis, ou que ce soit des formes institutionnelles, c'est-à-dire des formes héritées. On voit bien que ça affecte l'ensemble de ces questions. Et donc, évidemment, ça affecte le niveau global, hein, l'organisation sociale globale. En gros, si on reprend comment dirais-je, les qualifications de nos amis économistes, ou en tout cas socio-économistes, ça affecte les micros, les mésos et les macro-niveaux. Et donc l'ensemble de ces niveaux sont affectés par cette mutation. Ce qui signifie aussi qu'en ce qui concerne la définition que nous donnons des dispositifs d'information ou des pratiques d'information, de communication, des processus organisationnels, etc., ça signifie que nous nous trouvons, et c'est aussi quelque chose qui a à la fois une dimension théorique extrêmement puissante et prégnante, et qui a une dimension extrêmement pratique dès lors que nous sommes aussi à essayer de comprendre par des observations de terrain, par des observations participantes, etc. Un certain nombre des jeunes qui sont ici sont des doctorants en chiffres qui sont totalement immergés dans des contextes qui affectent précisément ces différents niveaux. Ça veut dire qu'il y a de ces niveaux qui sont imbriqués, hein, qui sont constitutifs. Alors on peut s'en sortir en disant c'est complexe, c'est la complexité, mais ça ne règle pas. On sait bien que c'est aussi un mot pavillon, hein, pour reprendre René Thom, dans précisément un colloque fort important et que je ne saurais trop, dont je ne saurais trop vous conseiller les actes, qui était le grand colloque Ordre et désordre sur l'auto-organisation qui s'est tenue ici à Cerisy en 1981 et qui traitait déjà de questions que nous retrouvons nous constamment. Donc la question du micro, du méso, du macro-niveau, la question du global et dans le fond et qui nous oblige à produire des définitions et des conceptualisations fortes, hein, je le souligne souvent, il faut revenir sur les débats. En particulier, on ne peut pas considérer, sans le définir et sans le revendiquer fortement, que les problèmes de communication, par exemple, seraient des problèmes interindividuels, c'est-à-dire qu'ils se situeraient uniquement au micro-niveau. Ou bien que les problèmes des relations entre l'information, la communication et les processus organisationnels concerneraient les organisations comme entités situées, comme État, etc., alors que nous voyons bien que cette catégorie d'organisation, nous ne cessons tous de le rappeler, et puis c'est au cœur aussi peut-être des débats avec nos amis canadiens autour de notions comme organizing et des choses comme ça. L'organisation est quelque chose qui, au moins en français, décrit à la fois des processus de structuration et des États, des entités, etc., qui sont plus ou moins objectivés d'ailleurs, ce qui pose aussi des problèmes, parce que tout semble se passer comme si les formes organisationnelles ou les organisations seraient réduites à leurs ressources matérielles, alors que par ailleurs, on les analyse comme étant des interactions, comment dirais-je, éventuellement psychologiques, ou, etc., etc., ou bien des interactions humaines, urbaine uniquement. Donc, c'est l'ensemble de ces questions. Alors, comment est-ce que essayer de penser ça, bon, évidemment, je n'aborde qu'une petite partie. Il m'a semblé que la notion de forme sociale était une catégorie intéressante à mettre au débat et pour essayer de rendre compte de ces phénomènes. Au moins de façon prudente, bien entendu. Alors, vous savez que cette catégorie de forme sociale émerge chez Simmel dans son débat avec Durkheim. Dans le fond, Durkheim va insister sur la catégorie d'institution. Mais la catégorie d'institution, qui est une catégorie extraordinairement importante, évidemment, dans le fond, renvoie à la question qui était très prégnante au XIXe siècle, et qui continue d'ailleurs au moins dans l'actualité médiatique ou dans l'actualité politique, semble-t-il, continue à avoir une certaine actualité. L'idée, c'était, dans le fond, au XIXe siècle, la question de savoir ce qui est hérité, donc ce qui relèverait à l'époque de l'inné ou ce qui serait acquis. Hein, on est dans ce débat-là. C'est un débat important, dans lequel d'ailleurs une partie de la communauté universitaire décidera à un moment donné que ce qui relève de l'inné, c'est ce qui relève dans le fond du biologique, et que ce qui relève de l'acquis, c'est ce qui relèverait du culturel. Et on voit bien les travaux de Lévi-Strauss cherchant à identifier ce qui fait le passage de l'inné à l'acquis ou du biologique au culturel autour de la prohibition de l'inceste, etc., etc. Toute question qui, d'ailleurs, d'une certaine façon, situe la question d'une autre façon, comment et que Simmel, précisément, exprime d'une façon intéressante dans un de ses textes, qui s'intitule « Comment les formes sociales se maintiennent-elles ?» Parce que la question fondamentale, ce n'est pas tant le fait qu'il y ait de l'hérité, et encore, il va falloir le préciser, c'est-à-dire qu'il y ait pour l'espèce humaine, comme pour les autres espèces, des éléments dans les comportements, dans la structuration du rapport au monde qui soient hérités, c'est-à-dire qui, voire même, structurent le rapport au monde de façon cognitive ou autre. La question, c'est comment se fait-il qu'à l'intérieur donc des formes institutionnelles, il puisse y avoir de l'émergence, il puisse y avoir des formes qui sont à la fois inventées et qui ont tendance à s'institutionnaliser, ou en tout cas à faire, à durer, à s'inscrire dans des processus de mémoire. C'est ça la question clé. Alors, peut-être qu'on viendra dans le débat, parce que j'ai... Comment est-ce que Simmel traite la question ? Simmel suggère, tout en restant à une idée qui est précisément que dans le fond, ce qui ferait le social, ça serait fondamentalement la capacité à structurer des projets et en fonction d'idées. Il y a chez Simmel une revendication quasi kantienne de ce que les formes sont des formes idéales. Mais il pointe une chose tout à fait intéressante. Il dit, dans le fond, me semble-t-il, les projets humains ont cette caractéristique que ce sont des projets qui à la fois instituent des formes sociales, c'est-à-dire de modalités diverses et variées, que ce soit des communautés, c'est-à-dire des formes d'organisation, de relations qui sont plus ou moins stabilisées, que ce soit des formes qui ont une dimension matérielle, que ce soit des formes qui ont une dimension de traces, de langage, etc. Leur caractéristique commune, c'est qu'elles réussissent à acquérir une certaine stabilité, et que ces formes, et c'est, me semble-t-il, ce qui m'a tout à fait intéressé chez Simmel, c'est qu'elles cristallisent de la mémoire. Elles cristallisent de la mémoire. Et toutes les formes sociales cristallisent de la mémoire. Et cristallisent de la mémoire, ce sont donc des dispositifs de cristallisation de mémoire, mais de mémoire de quoi ? Et c'est là où dire que c'est la cristallisation de la mémoire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un processus de mise en forme et de mise en sens, c'est-à-dire d'information littéralement, et que la notion déjà, ça ouvre sur une réflexion sur la catégorie d'information qui évidemment est plus complexe que la simple transmission de signaux, puisque on est dans un processus dans lequel la question de la mise en forme comme dispositif de cristallisation de mémoire, cristallisation de sens, etc., est un élément tout à fait majeur de l'aptitude, dans le fond, de l'humanité, et une aptitude qui, pour une part, serait donc héritée, et pour une part, serait volontaire, voulue, mais sans que l'on sache très bien pourquoi est-ce que, dans le fond, on agit comme ça. Et donc, on a ce débat-là. Alors, si on allait un peu plus loin, derrière Simmel, comment les choses vont se déployer ? on voit que la catégorie d'institution va évidemment occuper la réflexion très forte de toute la pensée sociologique, sociopolitique, etc. Bon, si on prend Castoriadis, il va développer une série d'hypothèses extrêmement intéressantes sur la distinction entre institutions premières et institutions secondes. Dans le fond, les institutions premières étant les institutions héritées, celles qui structurent notre rapport au monde, les institutions secondes étant celles qui, ayant été le résultat de projets, seraient des institutions qui seraient le résultat d'un processus d'institutionnalisation, ce seraient des formes qui se seraient institutionnalisées de façon à progressivement s'inscrire dans l'héritage. En quelque sorte, on est encore sur le même débat que celui qui est entre Simmel et Durkheim, puisque ce dont il s'agit, c'est de mettre en évidence ce qui, dans les créations humaines, en s'institutionnalisant, finit par être hérité. Hein, je pense par exemple aux formes organisationnelles, je pense à la notion d'entreprise, je pense à toute une série de formes sociales, justement, qui sont des formes qui progressivement apparaissent comme étant des formes, entre guillemets, quasi naturelles, au sens où, et non pas au sens biologique du terme, mais dont en tout cas qui sont héritées. Alors, il y a une première dimension là qui va amener d'ailleurs des auteurs assez différents, je dirais, dans leur choix politique à travailler cette question. Je pense à Hayek en particulier. Je suis assez bien Jean-Pierre Dupuis sur ce point, j'ai écrit aussi, qui distingue entre la philosophie, l'épistémologie hayekienne et les conséquences, je dirais, économiques et politiques qu'en tire Hayek. Ce que dit Hayek, c'est que dans ce qui se transmet, il y a deux choses. Il y a évidemment du biologique, mais il y a aussi des éléments de culturels, enfin des éléments qui structurent notre rapport au monde. En quelque sorte, l'espèce humaine, comme toutes les autres espèces d'ailleurs, vraisemblablement, au moins pour ce qu'on peut en observer, les autres espèces de mammifères, l'espèce humaine met ses petits au monde sans les avoir terminés complètement, et c'est ensuite par des processus d'exposition à des stimulations, à des formes, dans le fond, que nous acquérons une structuration mentale qui, d'une certaine façon, pourrait être interprétée dans le prolongement de Kant en disant qu'il y a de l'a priori, c'est-à-dire qu'il y a des formes a priori de la sensibilité et de l'entendement que Hayek traduit en disant il y a une structuration quasiment évolutionnaire, une structuration progressive de notre capacité cognitive qui nous amène ensuite à travers notre acquisition du langage, notre exposition à des expériences du monde, à des formes, etc., nous amène ensuite à hériter de façon de poser les problèmes, de façon de penser, de façon d'agir. Et alors là où Hayek ne radicalise pas dans la perspective de Simmel, c'est qu'il ne mobilise pas suffisamment, me semble-t-il, la notion de mémoire. C'est-à-dire que si on suit bien ces différentes perspectives et qu'on essaie de les faire converger, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je l'ai dit souvent, je le remets au débat, ça veut dire que pour l'essentiel de notre intelligence et de notre mémoire n'est pas dans notre tête, mais à l'extérieur. Elle est dans les formes sociales que nous structurons, qui ont été structurées, dont nous héritons, d'où il découle que les processus de rationalisation peuvent être analysés comme des processus littéralement de mise en explication d'actions qui, pour l'essentiel, que nous mettons en œuvre et qui, pour l'essentiel, dont la rationalité profonde nous échappe pour une part. C'est-à-dire qu'il y a une limite de notre capacité à rationaliser ce que nous faisons. Et ce qui est le plus intéressant, d'une certaine façon, la question la plus intéressante, et là je prendrai un peu le contre-pied de Popper, ça n'est pas tant de savoir pourquoi nous échouons et de savoir ce que sont les limites de nos capacités, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir pourquoi nous réussissons. Qu'est-ce qui fait que, pour l'essentiel, 95 voire 98% des actions que nous effectuons au quotidien, sans y réfléchir, sans même nous poser les questions, comment se fait-il que ces actions aboutissent globalement à peu près à ce que nous envisageons qu'elles puissent, à quoi elles puissent aboutir? C'est quand même une question tout à fait fondamentale. Évidemment, ça rejoint les questions de communication organisationnelle ou de communication au sens fort du terme, parce que ça veut dire qu'une part très très importante des interactions, y compris des interactions signifiantes, sont pour l'essentiel des interactions qui interviennent sans que nous en ayons véritablement conscience et sans que nous ayons besoin d'en avoir une conscience aiguë. Deuxièmement, ça veut dire que si nous examinons l'ensemble des processus, qu'ils soient sociaux, organisationnels ou autres, ça veut dire que il nous faut distinguer, pour des raisons, je dirais, méthodologiques, mais tout en comprenant à quel point ils sont fortement imbriqués dans les formes sociales, des formes sémiotiques, que ce soit des langages, des discours, que ce soit des images, que ce soit des formes symboliques, quelles qu'elles soient, les formes donc sémiotiques, qui jouent un rôle évidemment fondamental, mais qui doivent pour autant être aussi articulées à des, ce que moi j'appelle des formes objectales, c'est-à-dire la totalité des objets du monde qui nous entourent, et qui depuis l'origine, comme le dit, comment dirais-je, le roi Gourand, sont totalement couplés avec notre émergence au monde et avec l'émergence de notre capacité cognitive, le couplage cortex-silex dont parle le roi Gourand, c'est-à-dire que ces objets du monde, que ce soit des bâtiments comme ici, avec tout ce qu'ils peuvent avoir comme, comment dirais-je, densité de mémoire et en même temps comme densité d'opérationnalité, parce qu'ils ont été restructurés en fonction de buts et qu'ils ont à la fois une dimension institutionnelle et une dimension artificielle sous cet aspect, la question des objets, et donc, et les troisièmes formes au minimum sont les formes organisationnelles, c'est-à-dire une aptitude spontanée à la coopération, à la coordination de l'action en fonction de buts qui ne sont pas forcément des buts explicites ou des buts explicités ou explicitables. Il y a toute une série de conséquences, évidemment, qui en découlent du point de vue des travaux de recherche et des problématiques. Je l'ai souvent souligné, on peut choisir de centrer ces problématiques et de limiter ces approches à l'une ou l'autre de ces formes. On peut décider que l'on va prendre en compte les discours, que l'on va prendre en compte les formes langagières, on peut décider qu'on va prendre en compte les objets, les machines. On peut décider qu'on va prendre en compte les formes organisationnelles, c'est-à-dire les modalités de coopération, de coordination, l'émergence des normes, etc., et leur relation avec ces formes, dans tous les cas. Et on voit bien qu'au cœur de ce processus de mise en forme et de mise en sens, il y a un processus qui est le processus de normalisation, c'est-à-dire à la fois des normes qui sont des normes anthropologiques héritées et qui structurent notre rapport au monde, mais aussi des normes qui sont des normes techniques extrêmement prégnantes et qui permettent de structurer structurer à la fois les formes sémiotiques, les formes organisationnelles et les formes objectales. Voilà, les dispositifs de mémoire, alors ça évidemment, ça pose toute une série de questions. Peut-on considérer que les discours que tiennent les acteurs professionnels, par exemple, dans un contexte quelconque, doivent être pris au sérieux parce qu'on considérait que les acteurs professionnels, les professionnels en question, auraient une théorie de leur pratique et seraient capables de l'avoir? Ou est-ce qu'on doit considérer que les discours qu'ils produisent sont des discours de justification a posteriori qui peuvent renvoyer à tout autre chose que l'explicitation de la situation pratique? C'est un problème tout à fait concret dans l'analyse des processus de communication organisationnelle, d'informations organisationnelles, de pratiques organisationnelles. Une partie importante, évidemment, des travaux sont fondés sur l'analyse de discours par des entretiens avec les professionnels. Alors, c'est des vieilles questions de la sociologie. Est-ce que le fait d'interroger des personnes signifie que ce qu'ils vous répondent, d'une certaine façon, signifie qu'ils sont capables d'avoir une théorie de leur pratique, ou est-ce que, dans le fond, c'est vos questions qui déterminent les réponses? Enfin, je ne rentre pas là-dedans, mais c'est une question tout à fait cruciale, évidemment. Alors, ça renvoie à d'autres questions. Est-ce qu'il est possible, dans une perspective dualiste, de penser ces formes sociales? Moi, il me semble qu'il faut dépasser le dualisme. Alors, on a un débat qui reviendra certainement ici. C'est la question de savoir si l'ensemble des productions humaines, les machines, etc., pour reprendre, mais encore, je ne sais même pas si c'est sa conception. Enfin, moi, je ne crois pas, mais on reviendra peut-être. Est-ce que c'est du non-humain? Moi, je pense que ça ne fait... Je pense que ce qui caractérise l'humanité, ce n'est pas simplement le fait d'être un animal nu qui court dans la savane. C'est l'humanité se structure précisément par l'ensemble de ses artefacts, et les artefacts participent de l'humanité, ils n'en sont pas séparés. Encore faut-il produire des épistémologies qui permettent de penser sans cette séparation. En gros, nos mémoires, ça fait partie de moi, et c'est pas du tout séparé de moi, c'est ma mémoire, c'est tout ce que je mets en forme, c'est une partie de ce qui me permet d'agir, mais aussi le verre qui est le résultat de plusieurs millions d'années d'évolution et qui donne cette forme absolument extraordinaire qui fait que personne ne se pose la question de savoir à quoi ça peut servir sans en avoir une théorie, puisqu'on l'utilise immédiatement, etc., etc. Donc, la question des objets, les formes objectales, Il va sans doute être question de tournant matérialiste dans les sciences de l'information et de la communication. Je pense qu'il n'y a pas de tournant matérialiste. Je pense que le matérialisme, enfin au moins la prise en compte de la dimension matérielle des choses est un état de fait, quelle que soit ensuite la façon dont on peut penser l'émergence de cette matérialité. Et on peut avoir un point de vue tout à fait idéaliste sur l'émergence de cette matérialité. Pour autant, la question centrale, c'est la question des supports, la question des supports de mémoire. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de parole, il n'y a rien qui ne soit articulé à un support matériel, et il n'y a pas évidemment d'action humaine qui ne se situe dans des contextes objectaux, avec des machines, avec des bâtiments, avec énormément de dispositifs qui, eux, sont des dispositifs de mémoire, puisque ce sont des mémoires de forme qui sont aussi des mémoires de routine et qui nous permettent d'agir avec efficacité sans avoir à nous poser des questions. Et évidemment, il y a toute la façon dont nous coordonnons et qui permettent de structurer des formes organisationnelles, mais dont une part extrêmement importante est sans doute aussi de l'ordre de ce qui est hérité et de ce qui est non pas rationalisé, ni peut-être rationalisable. Donc voilà un petit peu pour lancer les questions. Je pourrais, évidemment, j'avais dit que je pointerais la dimension anthropologique et cette notion de forme sociale. Je pense effectivement que ça renvoie à une conception très importante et à des questions très importantes sur ce qu'est le processus numérique. On a tendance, dans nos disciplines, comme dans beaucoup d'autres, à commencer par une espèce d'affirmation, oui, il faut éviter le technicisme, et puis au passage, on fait passer à la trappe les objets, on fait passer à la trappe les machines, etc. Le technicisme, c'est une posture épistémologique et éventuellement une posture idéologique. C'est une posture, effectivement, qui considère que le progrès technique serait au fondement de la totalité du progrès de l'hominisation. Donc, évidemment, l'humanité ne se réduit pas à ces techniques et à ces formes objectales. Ceci dit, pour autant, il me semble évident qu'il faut prendre en compte l'évolution des dispositifs machiniques, l'évolution des dispositifs techniques dans la prise en compte de l'hominisation, que ces dispositifs techniques servent de support à des langages, à des sons, à des formes sémiotiques, ou qu'ils servent de support à des logiques de coopération et de coordination. Merci de votre attention.